Je passe la parole à Madame Christiane Olivier, psychanalyste.
Bonsoir à tout le monde. Je vais vous parler d'un sujet qui est difficile à traiter parce qu'il est dans le commun de nos jours, parce qu'il est dans nos journaux, parce que les forces de police sont en train de se dresser pour dire on ne veut plus être attaqué par des gens plus jeunes que nous et plus méchants, parce qu'il y a un problème de société derrière, c'est une évidence. Nos enfants ne sont pas devenus méchants comme ça tout d'un coup. Quand nous étions, moi, quand j'étais petite, les enfants n'étaient pas méchants comme ils le sont devenus. Alors ça pose un problème. Qu'est-ce qu'il s'est passé en 50 ans pour que nos enfants croient qu'ils ont des droits d'adultes, c'est-à-dire le droit de tuer l'autre, le droit de tuer pour avoir, pour prendre, pour se venger. Il faut dire que la violence est un sentiment qui est à définir au départ. Vous le voyez comme un sentiment négatif, tueur de l'autre. Mais c'est un sentiment, une pulsion, dit un psychanalyste plutôt, plus volontiers. C'est une pulsion présente dès le départ, car c'est une pulsion de défense contre la mort. Nous savons que les bébés sont extrêmement résistants à la mort. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont une pulsion de vie énorme et que chaque fois qu'ils sont menacés, ils se défendent mieux que nous. Parce qu'ils ont une force énorme pour dire « je veux vivre ». Parce qu'ils sont au début peut-être et parce que nous, nous sommes au milieu ou à la fin. Mais enfin, les bébés ont des pulsions d'une puissance incroyable. Quand vous laissez un bébé dans son berceau manquer de quelque chose, vous le retrouvez transpirant, rouge, il est arrivé alors qu'il ne sait pas prendre une position ni rien, il est arrivé à se mettre en travers, il est tout rouge, il transpire, on dirait qu'il n'entend plus, qu'il ne sait plus où il est, vous l'attrapez, vous le prenez dans les bras, il vous faut 2 minutes à peu près pour que cet enfant se dise « on s'occupe de moi ». Qui ? J'en sais rien, mais on s'occupe de moi. Il faut voir ce que le bébé a affronté quand il vient au monde. C'est, je pense, l'épreuve la plus terrible que nous ayons de quitter un milieu homogène où nous pouvions nous appuyer, où nous pouvions boire, où nous pouvions faire des bulles, où nous pouvions lâcher nos besoins les plus naturels. On pouvait tout faire. Jamais on ne se heurtait à un refus, jamais on ne se heurtait à un manque. On était donc dans quelque chose qui était quasiment parfait, mais on ne le savait pas. Là est le problème. Et quand on arrive au jour, on se rend compte qu'il y a des tas de choses qu'on a perdu. Ouvrant la bouche, le bébé pour avaler du liquide amniotique, vraisemblablement, et retrouver son équilibre, avale de l'air. Et quand il veut recracher l'air, ça le fait crier. Il n'est pas habitué, évidemment, que tout ça est extrêmement secouant. Et que nous voyons les bébés, quand on les attrape et qu'ils sortent du ventre, ils sont extrêmement à la fois glissants, mais raides. Ils sont tout raidis, car ils n'ont plus rien à reposer. Ils ne sont plus dans le liquide, donc ils ne sont plus portés. On les porte. Et ils sentent les mains des adultes qui les attrapent comme quelque chose de dur, parce que l'utérus de la mère était quelque chose d'extrêmement souple, qui allait dans un sens, se déformait, revenait. Vous le savez bien que quand une femme est enceinte, elle a une bosse ici, un trou là, puis ça change, etc. C'est le bébé qui prend sa liberté, mais quand il est né, sa liberté s'en va. Et c'est pour ça qu'il devient extrêmement violent, et que s'il manque de quelque chose et qu'il ressent le vide, comme il le ressent très vite, au bout de 2 jours, il se met à crier d'une façon anormale et très très forte. Alors, il y a des gens qui disent « laissez-le crier, c'est une habitude humaine, il va se faire les poumons ». Moi, je ne dis pas du tout, ne le laissez pas face au vide, il ne sait pas ce que c'est, ça l'affole. Donnez-lui 3 gouttes d'eau, donnez-lui une tétine, donnez-lui ce que vous voulez, mais ne le laissez pas affronter ce vide, c'est déjà énorme. Vous le mettez dans un berceau, mettez-le dans un berceau qui, autour, est une sorte de boudin qui est attaché au berceau pour qu'il ne puisse pas l'attraper et s'étouffer avec, mais mettez-le contre quelque chose qui est doux pour sa tête quand il se met dans tous les sens, qu'il trouve un endroit où s'appuyer, car vous retrouvez régulièrement votre bébé endormi en coin, la tête contre le coin du berceau. Qu'est-ce qu'il fait ? Il cherche les limites de son habitacle. Sans arrêt, pendant les premiers mois, il cherche à retrouver tout ce qu'il a perdu. Alors, les parents, que peuvent-ils faire pour éviter que l'enfant devienne vraiment violent ? Ils peuvent accéder aux besoins du bébé qu'ils connaissent. Ils savent que le vide est externe est interne. Donc c'est un double vide. Donc ils peuvent donner de quoi manger au bébé, ils peuvent lui parler, le remplir par les oreilles, ils peuvent le balader dans l'air en le berçant ou en le prenant dans les bras. Ça va lui rappeler les mouvements qu'il avait quand la mère bougeait et qu'il était dans son ventre. Tout ce qu'on peut faire qui est moteur en douceur et en tenant l'enfant lui rappelle la douceur qu'il avait à être dans notre ventre. C'est une chose évidente. Et les bébés qu'on abandonne seuls pendant 2 heures ou 3 heures, on les met en difficulté. Et ils ont l'impression qu'ils vont mourir. Et ils crient d'une violence absolument énorme. Le mot mourir est faux, car à cet âge-là, on n'a pas de phonème, on n'a pas de symbole dans la tête. On ressent que ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer parce que ça n'a jamais été comme ça. Et alors l'enfant dépense toutes ses forces pour essayer de sortir de ce truc qui ne peut plus durer. Mais il est en état de violence. Il faut voir que la violence naît dès le départ. Et les parents ne veulent pas l'entendre. Les parents ne veulent pas l'entendre. Je fais souvent des conférences sur ce sujet. Les parents sont très mécontents parce que le bébé est pour eux l'objet d'un double désir. Il doit naître comme leur désir, d'un désir d'amour, de communauté. Et il doit être là, tout heureux, tout souriant, donnant raison à ses deux parents. Et quand il se met en état de violence parce qu'il est vide, il semble qu'il leur donne tort. Il ne leur donne pas tort. Il leur apprend qu'est-ce que c'est de naître et qu'ils ont déjà oublié, mais qu'ils ont intégré à leur vie. Selon qu'ils ont peur du vide ou pas, les gens n'ont jamais oublié leur violence, tout simplement. Il y a des gens qui peuvent voler dans le vide, sauter dans le vide, et il y en a qui ne le feront jamais, car ils se souviennent très bien du sentiment de pesanteur qu'on a tout à coup en soi quand on est projeté hors du ventre de la mère et pris dans des mains humaines. Ça ne fait pas du tout la même chose. Cette violence, donc, la première année, est à traiter d'une façon particulière, parce que l'enfant, n'ayant pas de mots et pas de symboles, ne sait pas ce qui lui manque. Mais nous le savons. Nous savons qu'au milieu, il digère extrêmement vite. Nous savons que tous les 2 heures, il se sent vide et que c'est insupportable. Nous ne pouvons pas lui donner à manger toutes les 2 heures. On nous dit que c'est trop serré. Maintenant, on a élargi un peu le système en disant « Vous pouvez donner à vos bébés à la demande. » Mais à la demande ne veut pas dire quelquefois la demande du bébé qui se renouvelle beaucoup. Alors, il est certain qu'on peut lui donner une tétine à ce moment-là, on peut lui donner 3 gouttes d'eau, on peut faire tout ce qu'on peut pour essayer de le rapprocher de sa suivante tétée. On peut le prendre dans les bras, on peut lui chanter des chansons, il entend très bien. On peut le changer de pièce, il sent très bien l'odeur des pièces. On peut le mener dans une pièce plus sombre, il voit vaguement si c'est sombre ou si c'est clair. Tout ça l'occupe et pendant qu'il est occupé par les autres sens, il oublie cette fameuse bouche qui est vide. Alors c'est très intéressant avec un bébé du premier âge que les parents passent énormément de temps à lui faire oublier qu'il a faim et qu'il a un trou dans l'œsophage. Il faut que les parents, par des moyens externes, lui passe finalement quelque chose de l'ordre de la culture. Vous savez que nous buvons de la musique, nous nous rassasions de couleurs, nous évanouissons d'une odeur, ce qui veut dire que nous mettons toutes les sensations des sens à l'intérieur de nous-mêmes et que nous nous en nourrissons. Le bébé peut faire pareil, mais il faut l'aider, il faut l'initier à ces choses, car au début, il ne réagira pas à la musique, mais au bout de 3 jours, il réagit à la petite musique qui est au-dessus du lit et qui tourne et qui fait toujours le même bruit. Et quelquefois, le rythme est un rythme qui ressemble au rythme du cœur de la mère, dont il se souvient extrêmement bien. Piaget a fait des expériences pour des bébés qui pleuraient et il avait enregistré le cœur de la mère avant, il a fait passer le bruit du cœur de la mère, le nourrisson s'est calmé. Il a prouvé qu'il savait se calmer sans nourriture en entendant ce qu'il connaissait déjà. Ce qu'on connaît déjà est toujours rassurant et ce qu'on ne connaît pas est toujours angoissant. Et quand on est angoissé, on devient violent. C'est ça qu'il faut connaître du cycle de l'homme. C'est qu'au départ, il est surpris par sa naissance, il tombe dans un monde d'inconnu, dans un monde de manque, et là, il devient agressif. Et les parents doivent aller plus vite que l'enfant, car avec leur intelligence et leur connaissance de l'inconscient, ils doivent très bien savoir ce qui manque à l'enfant. Un parent doit savoir que s'il a donné à son enfant à téter il y a environ 1 quart d'heure, et que le bébé recommence à crier, il n'a pas faim. il a peut-être un diverticule, il a peut-être une malformation de l'œsophage, il a peut-être une régurgitation à faire, il a peut-être quelque chose de l'ordre de la nourriture à rendre, mais il n'a sûrement pas faim. Bon, si le bébé reste tranquille pendant trois quarts d'heure, il a commencé la digestion, tout va bien. S'il se met à pleurer, c'est qu'il a autre chose. Peut-être qu'il a une selle, ça le pique, il n'est pas habitué à ce que ça le pique. Il faut donc ouvrir les couches, le changer. Il y a des tas de choses de l'extérieur que nous pouvons faire et qui disent à notre enfant qu'il n'est pas avec quelque chose, il est avec quelqu'un. Il fait la différence parce que nous faisons du bruit, nous faisons beaucoup de bruit à côté de la parole de la mère qui était transmise par toutes les enveloppes dans lesquelles il était. Notre voix est très bruyante, la voix du père, la voix des enfants qui sont là, tout ça est très bruyant. Et l'enfant apprend qu'il n'est plus dans quelque chose où tout est tamisé, mais dans quelque chose de très vivant, très bruyant. Et quelquefois, il n'aime pas du tout le silence de sa chambre. Et quelquefois, il faut laisser la porte ouverte avec la cuisine. Et quelquefois, il faut prendre le berceau dans la cuisine et continuer à faire la cuisine. Et il va s'endormir parce qu'il est ravi, parce qu'il entend du bruit, il entend des voix, et il se met à dormir. Ça dépend des bébés. C'est aux parents de savoir si ce bébé-là va pouvoir s'adapter au silence d'une chambre de bébé bien préparée. Ce qui est la pire des choses, c'est l'isolement total, dans un ordre total, avec rien à regarder, rien à entendre en général. Donc, il y a beaucoup de bébés qui ne s'y font pas du tout. Les parents, cette année-là, doivent être toute écoute, tout amour et toute gentillesse pour le bébé. Il n'est pas question de coller une fessée, ni une claque, ni rien de cet ordre à un bébé jusqu'à ce qu'il ait environ 10 ou 11 mois. On ne doit pas toucher un bébé. J'ai un dilemme en ce moment avec Alice Miller qui veut faire passer une loi sur l'interdiction de la fessée. Moi, je ne suis pas OK. Je trouve que la fessée, si les parents veulent la donner, ils peuvent la donner. Mais de toute façon, la fessée n'est plus la fessée, car elle n'est jamais donnée avec une main nue sur une fesse nue. Elle est donnée sur une épaisseur de couche qui fait beaucoup de bruit, un point, c'est tout. L'enfant remarque que c'est un truc qu'on ne fait jamais, alors peut-être qu'il s'en affole, je ne sais pas. En tout cas, il n'a sûrement pas mal. Alors moi, je ne suis pas du tout pour une loi pour les fessées. Je dis que les seuls qui ont besoin de loi pour les fessées sont des parents extrêmement violents, en particulier des alcooliques, qui ne reconnaissent aucune loi. Donc, quand ils ont bu, ils ont perdu la loi, ils ont dépassé leur surmoi, rien n'est interdit, tout ce qui les gêne, ils tapent, ils cognent, donc les lois sont impuissantes sur eux. Alors, pourquoi ferait-on une loi pour les autres parents, que moi j'estime normaux? Il y en a qui ont besoin de donner une fessée, il y en a qui donnent une claque, il y en a qui attrapent par le bras, il y en a d'autres qui disent « sors-moi de là » et puis tire l'enfant parce qu'il est assis par terre, il ne veut pas se lever. Moi, j'estime que tout acte que fait un parent contre l'opposition formelle de l'enfant à partir de l'âge de 1 an, quand il marche et quand il sait aller dans la pièce, est tout à fait normal. Et moi, je ne ferai jamais de loi pour ces choses-là. Mais je voudrais vous expliquer le maniement simplement de la violence. Si vous avez été sévère la première année, vous vous êtes trompé, car votre enfant ne méritait aucune sévérité. Il demandait quelque chose qui lui avait manqué et qui lui manquait cruellement. Il fallait aller au-devant de lui, il fallait le lui donner. C'est tout ce qui faisait que votre enfant allait se calmer. Quelquefois, on y passe beaucoup de temps. Quelquefois, il y a des enfants qui naissent tellement nerveux que les premiers jours, on est obligé d'appeler un pédiatre et le pédiatre donne 3-4 gouttes calmantes quand il crie trop. Parce que crier trop, c'est prendre l'habitude d'aller au bout de ses forces, au bout de sa voix, d'être très, très, très en colère. Et votre enfant ne doit pas apprendre ça. Car s'il l'apprend, ça tombera dans le refoulement, c'est-à-dire la partie de l'inconscient qui ne revient jamais, et il gardera le réflexe de la rage extrême sans savoir où il l'a pris. Donc, dans les années où on forme cet inconscient secret, il faut faire attention à ce que nous faisons. C'est extrêmement important, bien plus important que quand nous nous mettons en colère à 5 ans sur un enfant qui comprend, qui entend et qui se souviendra. Hein. Bon. Et cette première année évolue bien si les parents ont le sens qu'après les 3 premiers mois, ils voient que l'enfant commence à remuer les mains, à pouvoir attraper des choses, donc ils lui donnent une chose, l'enfant essaye de l'attraper, il la loupe, il reprend, il le tient, puis il ne peut plus le lâcher, il ne sait pas lâcher, ouvrir, lâcher, il n'a pas le contrôle moteur. Mais c'est aux parents de donner des objets. Pourquoi des objets? Mais pour que l'enfant se distrait. Se distrait de quoi? de cette faim énorme. Et pourquoi je vous parle tout le temps de cette faim énorme ? Parce qu'il fait partie du stade oral, de retenir tellement l'histoire du manque à l'intérieur que c'est de là que naît la tendance à être alcoolique, la tendance à se droguer, la tendance à la boulimie et la tendance à l'anorexie. Vous reconnaîtrez que ce sont 4 symptômes extrêmement graves et que les psychanalystes n'osent même plus attaquer. Ils donnent quelques conseils, mais l'ensemble du traitement est en général un traitement comportementaliste. C'est-à-dire, tu avances, on te tape, tu n'avances pas, on ne te tape pas, etc. On ne fait pas de raisonnement à des gens qui ont mis au milieu que le manque était fondamental et qu'il fallait le remplir. Il en est de même pour les kleptomanes, d'ailleurs. Les kleptomanes sont inguérissables. Pourquoi ? Il leur manque toujours quelque chose. Ils ne savent pas quoi. Mais ils tendent la main avant de savoir à quoi servira l'objet. Ils ont besoin de se compléter par quelque chose d'extérieur. Alors nous, nous leur apprenons à se compléter, nous les nourrissons, mais nous avons le devoir de leur apprendre à se compléter par ce qu'on appelle la sublimation. C'est un mot que les parents ne connaissent pas. Moi, je voudrais bien qu'on fasse dans les maternelles, oui, sûrement, des cours de formation permanente pour les parents, pour leur apprendre comment on passe de la nourriture à l'objet, de l'objet à l'objet qui fait de la musique, et de la musique au petit livre tout petit, où il y a des images toutes petites, où on dit coco, waouh, etc. Quelle progression on doit suivre dans la sublimation du bébé ? Car le bébé, intéressé par ce qu'on lui fait voir, ne nous embête plus avec son histoire de « j'ai faim, donne-moi à manger ». Non, il s'intéresse à d'autres choses. C'est comme nous, quand nous avons très faim, et que tout d'un coup, nous nouons une relation extrêmement intéressante avec quelqu'un et que nous oublions de manger. Mais quelle heure est-il ? On s'aperçoit qu'il est une heure indue. On avait totalement oublié. On était dans le plaisir de la communication. On mangeait l'autre qui nous mangeait. On avait un échange de dévoration, tout à fait oral, puisqu'il était par la parole. Mais on a oublié la nourriture. On va manger quelque chose plus tardivement. Donc, retenez que la première année de l'enfance est la violence. Des vrais violents, c'est-à-dire des alcooliques, des drogués, des anorexiques et des boulimiques. Ces violences qui ne concernent que quelques parents et ces violences qui affolent les parents parce que, justement, ils n'en voient pas la cause, ils ne la connaissent pas la cause. Et quand on veut soigner la chose, il est trop tard. L'enfant n'entend pas, n'entend plus, ne se souvient pas. Et moi, je comprends très bien que quand on est parent d'anorexique ou de boulimique, on soit affolé. On dit, j'ai tout fait de ce qu'il fallait, et maintenant, regardez, elle mange des tonnes de nourriture, elle se fait rendre, c'est une horreur. Et que faire ? On ne peut pas condamner ses parents. Il y a des parents à qui on peut faire prendre compte qu'ils auraient mieux fait de faire comme ci ou comme ça, mais quand ce sont des perversions graves comme celles-là, elles sont natives, elles sont fondamentales et elles viennent de la violence à se remplir. Vous savez très bien que celui qui mange des tonnes de nourriture, il est dans une violence épouvantable. Les boulimiques l'ont décrite je ne sais pas combien de fois. Ils se sentent fous, hors d'eux-mêmes, occupés simplement à dire « il faut que je sente que là c'est plein ». Ils avalent des kilomètres qu'ils ne peuvent même pas garder d'ailleurs. Et c'est un besoin qui n'est pas finalement tellement physique que psychique.